Croyez-moi, vous en êtes un.
J'en suis un ?
Oh oui, et un beau.
Mais vous êtes fous !
Vous écoutez
les entonnoirs.
Vous écoutez
les entonnoirs.
Si vous êtes normal, vous n'avez rien à foutre ici. C'est évident.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
C'est un fou. C'est pas bien normal. Il est pas comme nous.
Les anormaux, quoi. Les anormaux. Les entonnoirs.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Normal. J'ai un coup de gueule à passer.
Mais faites quoi, on fait notre émission de radio,
ouais.
Vous m'expliquez quoi?
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Vous écoutez les entonnoirs.
Non mais c'était un coup, là.
Il faudrait construire des asiles de cons et vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
En se posant des questions.
Bonjour les entonnoirs.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à l'émission 860. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Clément.
Bonjour.
Maxime.
Salut les copains.
Gérard.
Bonjour tout le monde.
Valentin.
Bonjour à toutes et à tous.
Roger Lucien.
Bonjour.
Nicolas.
Bonjour.
Raphaël. Bonjour. Azad.
Salut tout le monde.
Malika.
Bonjour auditeurs et auditrices.
Christopher.
Salut tout le monde.
Zénab. Bienvenue Zénab. On a Florent.
Salut à tous.
On a l'autre Nicolas.
Bonjour à tous.
On a Rachid.
Salut, je crois qu'on est 19 à truc.
19
comme ça,
ouais. Putain.
Bonjour.
Amélie, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Rachel.
Salut tout le monde.
Et Ben derrière la console.
Exactement.
Va jouer en Mortal Kombat, Ben.
Au programme de l'émission, on démarrera évidemment avec quelques actualités choisies par les entonnoirs. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous discuterons de la première grève de l'histoire de l'humanité. En tout cas, la première grève documentée de l'histoire de l'humanité avec Roger Lucien. Clément nous parlera de Pale Blue Dot, un cliché devenu célèbre. Ensuite, Maxime nous parlera du groupe Scorpions. Raphaël nous parlera de New French Extremism, un courant cinématographique. Et Gérard nous parlera de Berthe Morisot. Malika fera la météo. Côté musique, on écoutera Princess Lover, Les Scorpions, Candor Cyclone. Et on commence avec le choix musical de Nico. Il s'agit de
The All American Rejects, Dirty Little Secret.
My time with you. Tell me.
Dirty Little Secret, c'était All American Reject, choisi par Nicolas pour débuter l'émission. On va maintenant passer à l'actu service.
Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonsoir.
Madame, monsieur, bonjour.
L'actu service, c'est la revue de presse des entonnoirs. On va commencer avec Azad.
Alors, je parlais du carburant. Le plan du gouvernement pour éviter des hausses abusives des prix à la pompe. La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte, a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu. Pendant 3 jours, 500 contrôles auront lieu dans des stations-service.
Des réactions. Christopher.
Oui, c'est pour dire comme quoi c'est un peu abusé de faire augmenter les prix à la pompe, sachant que quand il y a des baisses du prix du baril, à chaque fois, ils nous expliquent qu'il y a des réserves. Il y a à peu près 3 mois de réserve, je crois, au niveau national. Et que donc, il y a un décalage de 3 mois quand il y a une baisse. Par contre, dès qu'il y a une hausse, bizarrement, dans les quelques heures, c'est augmenté.
Ouais.
Donc,
malhonnêteté derrière tout ça de la part des distributeurs. Donc aussi bien les distributeurs stations essence, grandes surfaces.
Que je pense même au niveau des raffineries. Je pense qu'à tous les niveaux, il y a chacun qui se prend un petit quelque chose et qui fait de l'abus.
Clément, ouais. Ou Florent.
C'est un peu... c'est des mécanismes qu'on a vus avec la guerre en Ukraine aussi, qui a été prétexte à la montée du prix de plein de produits qui n'ont pourtant rien particulier à voir avec la situation en Ukraine.
Il n'y a que le prix des armes qui n'augmente pas en ce moment, j'ai l'impression.
Ouais, c'est bizarre.
Florent.
Et sans compter l'impact qu'a les taxes sur l'essence au niveau du gouvernement, parce que ils se prennent une belle marge. Alors,
c'est
certes,
clair.
C'est sur les impôts et autres, mais il n'empêche que pour éviter que ça flambe de trop, peut-être que leur rôle aussi, c'est de réguler.
J'ai vu François Ruffin râler la semaine dernière, justement, dans les médias, en disant qu'il n'y avait pas de raison que les grandes surfaces ne puissent pas bloquer les prix, qu'il y avait cette histoire de 3 mois de réserve, et qu'en plus, l'État est censé avoir le pouvoir ou un minimum de contrôle sur ce genre de trucs. Bon, finalement, il faut croire qu'il n'en a pas tant que ça. Mais...
Pour moi, pour une fois, le gouvernement, il essaie de réguler tout ça, même si c'est un peu un caillou dans la soupe, ou je sais pas vraiment.
Dans la chaussure, le caillou.
Un caillou dans la chaussure.
Ouais, il a mélangé avec le titre du livre.
Disons pour Rachid.
Ouais, moi je pense que l'État il peut pas réguler, c'est du commerce et puis c'est quand même compliqué de dire on bloque à ce prix-là. Il faut passer des lois, ça met du temps quoi.
Ouais, mais l'État pourrait geler ses taxes par exemple. Il pourrait dire vu que le prix augmente, nous on a autant de recettes sur l'essence, on va baisser notre taxe comme ça. Il y a peut-être moyen que ça fasse baisser le prix.
Vu la ministre de l'économie qui est passée qui a dit ah bon ça augmente.
Ouais, okay.
je crois que eux ils se disent ça augmente, on a plus de taxes et
plus de rentrées d'argent.
Et tant mieux quoi.
Ouais.
Je trouve aussi que c'est un peu triste ce que ça dit, c'est que c'est une réalité qui est à prendre en compte, le fait que ce genre de conflit génère ça. Mais il y a plus de priorité à s'assurer que ça augmente pas les prix plutôt qu'à essayer d'éviter les conflits quoi.
Ce sera la conclusion de ce sujet d'actualité. Merci Clément.
Ouais, désolé.
Sujet suivant, Nicolas.
20 minutes. Haute-Loire. Un rafale accroche une ligne électrique. Un incident extrêmement rare. Malgré le respect des procédures et une préparation de mission minutieuse, jeudi en début de soirée à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. 104 foyers se sont retrouvés sans électricité. L'armée de l'air et de l'espace explique que l'équipage a dû interrompre sa mission du côté du massif central. L'équipage s'est dérouté à l'aéroport de Clermont-Ferrand. La patrouille de Rafale était en navigation très basse altitude. dans un couloir aérien prévu pour ce type d'entraînement. L'équipage indemne s'est posé en toute sécurité.
Alors, si j'ai bien compris, je résume. Donc, des entraînements avec des rafales, hein, les avions. Ils ont coupé une ligne haute tension, donc en effet, ils devaient voler pas très très haut.
Ouais, ça doit être vraiment très bas.
Très très bas, même. Surtout, vous imaginez un avion de chasse au niveau des immeubles.
Et surtout, il n'y a eu que 104 foyers qui ont été coupés d'électricité. Donc ça veut dire que ça devait être dans un désert.
Par contre, il précise que c'était dans son couloir aérien, donc je ne sais pas pourquoi il a été dérouté.
Il y a des pylônes électriques dans leur couloir aérien où ils volent pas, c'est bizarre. Ouais.
C'est un peu bizarre, je trouve. C'est des choses qui sont prévues, minutées. Je veux dire, c'est des entraînements rigoureux, donc c'est un peu étrange le fait qu'il se soit passé ce genre d'incident.
Heureusement, rien de grave à déplorer, à part 104 personnes qui n'avaient plus d'électricité. Ça va, le drame est relatif. Sujet suivant, Clément, tiens.
La honte, une fois encore, pour les politiciens du Bloc central, et particulièrement pour Gabriel Attal, le président macroniste du groupe Ensemble pour la République. De toutes les horreurs qui avaient pu être mises en lumière par l'affaire Betaram et ce qu'elle avait révélé sur les violences infligées aux enfants, dans les établissements scolaires, notamment par les adultes, et le manque de contrôle de ces violences, de toutes ces horreurs, eh bien, au moins une chose positive aurait dû sortir, avec la proposition de loi Spielboud-Vanier. Souvenez-vous, à l'occasion des révélations entourant Betaram et le rôle de François Bayrou dans cette affaire, une commission d'enquête avait été mise en place avec comme rapporteur Violette Spielboud, députée Renaissance, et Paul Vanier, député La France Insoumise. Et les travaux réalisés par cette commission constituaient jusque-là un cas notable de bon fonctionnement de notre République. Car si les conflits, les divergences d'opinion, la discussion et même la dispute font partie du fonctionnement normal d'une démocratie, les deux rapporteurs ont su tous deux reconnaître dans cette affaire un cas où l'intérêt supérieur, ici celui des enfants, nécessitait de leur part un travail sérieux et épargné de toute manœuvre bassement politicienne. Et dans un très bel exemple de ce que peut donner le travail parlementaire bien fait, cette commission avait fini par accoucher d'une proposition de loi transpartisane, réalisée en collaboration avec des associations de victimes et le ministère de l'Éducation, signée par des représentants d'une majorité des différents camps présents à l'Assemblée nationale, et visant à mettre en place très vite des mesures concrètes pour protéger les enfants. Mais vous l'aurez déjà compris, tout ce travail s'est retrouvé balayé, réduit à néant, et ne sera pas présenté au Parlement. En cause, le rejet des groupes de droite et d'extrême droite, bien sûr, mais également l'abstention de Gabriel Attal, membre pourtant du même parti que Violette Spielboud. Abstention qui s'inscrit dans la continuité du comportement du Bloc central lors de la signature du texte par les députés. L'un des rares députés centristes à avoir signé le texte ayant confié à Mediapart que, ouvrez les guillemets, des collègues ont été appelés pour qu'ils retirent leur signature. Fin de citation. Et tout cela au nom de quoi ? Eh bien d'après Violette Spielboud elle-même, parce qu'elle signe ce texte avec Paul Vanier, comprendre, avec un insoumis. Une fois encore, dans sa volonté de donner à la gauche l'image d'un monstre auquel il ne faudrait pas s'associer, ceux qui se prétendent ni de gauche ni de droite agissent bel et bien comme la droite la plus extrême. Et une fois encore, ce qu'ils veulent faire passer pour de la neutralité aura des conséquences. Monsieur Attal, par cette abstention, vous tournez le dos à des victimes que ce texte aurait pu sauver et protéger des monstres qui, pour le coup, eux, sont bien réels.
Nico.
Ben merci Clément d'avoir parlé de ce sujet qui est si sensible et crucial pour la société. Et ça me fait penser aussi aux enfants qui sont placés par l'État et le manque de place et les conditions d'accueil qui sont aussi souvent dénoncées. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelles étaient les, au moins une peut-être mesure symbolique qui avait été mise en avant dans ce projet pour les enfants scolarisés dans ce genre d'établissement, s'il te plaît?
Alors, quelques mesures comme ça, vite fait, qui étaient prévues. Alors, il faut savoir que c'est des mesures qui ne sont pas sorties du chapeau. C'était, il y avait eu 50 concepts, 50 choses à retenir qui étaient sorties de la commission. Et c'était traduit par, je crois, 11 propositions dans cette loi. La première, notamment, était l'inscription d'une reconnaissance nationale de ce statut de victime de ce genre de violence. Il y avait aussi la proposition de la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes, pour aider notamment à payer les frais de justice. Il y avait également une levée un peu du c'est pas du secret professionnel, mais du... Ah, j'ai plus le terme. De la confidentialité dans ces métiers, le fait que, en gros, si une personne est accusé de ce genre de choses et est jugé coupable de violence sur des enfants dans ces milieux, ils ne puissent pas aller rechercher juste un travail dans l'établissement voisin ou dans une autre ville, et qui est vraiment que ce soit noté, que ce soit,
ouais, qu'il soit inscrit dans un fichier,
et qu'il y ait une période rallongée. Ouais. Voilà. Il y avait aussi l'augmentation des contrôles. Il parlait de contrôle obligatoire quinquennal, donc tous les 5 ans pour tous les établissements, parce qu'ils avaient remarqué que si ils maintenaient le rythme actuel de contrôle des établissements, en fait, je crois que c'était, il faudrait 1500 ans pour que tous les établissements actuels soient contrôlés. Ouais, okay. Donc une grosse augmentation de ce rythme. Et bon, bah, tout ça, pour l'instant, c'est balayé.
Affaire à suivre ou c'est enterré totalement ?
Je sais pas trop. Je n'ai pas de raison de croire que c'est à suivre, mais on peut supposer, vu quand même le côté qu'avait rassemblé de ce texte, que des gens vont pas se satisfaire de ce résultat. Okay.
Merci Clément. Sujet suivant avec Azad.
Alors, partout les femmes luttent. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en France lors de la Journée internationale des droits des femmes. Dans 150 lieux en France, des milliers de personnes manifestent pour défendre les droits des femmes, jamais définitivement acquis selon Emmanuel Macron. Et donc.
Toi, tu étais à la manif de Lille hier, ouais.
Moi, j'ai participé à la manif de Lille. Et franchement, c'était vraiment, j'ai apprécié.
Ouais.
Alors, ce qui s'est passé, c'était que il y avait vraiment différents, groupes. Alors, il y avait des communistes, les LFI. Il y avait donc il y avait aussi des, comment on appelle,
des
personnes qui venaient d'Iran carrément aussi.
Ok, d'accord.
Il y avait un drapeau iranien que j'ai vu. Donc voilà. Après, il y avait des LGBT. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait des... Voilà, différents, on va dire...
Des groupements féministes aussi, ouais, j'imagine, ouais. Ouais.
Voilà, et donc on a fait une marche, il y avait beaucoup de monde.
Il y avait beaucoup de monde, ouais.
Ouais.
Bah, il faisait beau en plus, ça devait être sympa, non ? Il faisait beau ?
Il faisait beau, c'était sympa.
Il n'y avait pas les amis de Quentin ? Bizarre.
S'il devait être planqué quelque part à des coins de rue pour voir si à un moment il pouvait essayer
Peut-être.
Bref. Bah, en tout cas, merci pour ce témoignage, Azad. Sujet suivant, Nico.
TF1. Tête de porte devant le domicile de Christian Estrosi. Deux hommes interpellés fin février à Nice vers 23h30. Une affiche avec son portrait, une étoile de David et l'inscription connard. Pardon, excusez-moi. Le visionnage de caméras de surveillance a permis de voir un individu vêtu de noir et porteur d'un sac cabas, et d'identifier un véhicule. Les deux individus, l'un né en 1998 en Tunisie et un second né en 1990 en Tunisie, tous deux domiciliés en région parisienne, le premier localisé à Nice, a été interpellé le 4 mars, soit 5 jours après les faits. Il se présente comme titulaire d'un doctorat en informatique et auto-entrepreneur, déjà condamné pour vol en Réunion. Il demande de l'asile. Le second est interpellé en cinéma.
Des réactions ? Florent, tu veux réagir ?
Ouais, moi, ce que je trouve assez étonnant chez TF1, c'est qu'ils ont besoin de décrire la nationalité
c'est
des
clair.
Gens. Ouais, c'est le
clair.
Premier truc qui me choque. Enfin, je ne sais pas pour vous, les entonnoirs.
C'est ce que je m'étais dit aussi, le nez en Tunisie. Je ne vois pas ce que ça apporte à l'information, en fait.
Ouais. Roger Lucien.
Non, moi, je me demande si ce n'est pas une façon de stigmatiser certaines catégories de personnes. Je ne sais pas.
Ouais, un peu quand même.
Bah ouais, c'est pour dire que c'est des Arabes. Hein.
Oui, mais enfin.
Des Tunisiens, demandeurs d'asile, ce qui est bizarre. Rachid, Tunisiens et demandeurs d'asile, ça va pas ensemble, je suis d'accord, Azad.
Rachid, on est en direct. Bah,
mais il s'agit quand même du conflit israélo-palestinien, là.
Ouais,
dans
mais
le
là,
fond du sujet.
Là-bas, c'est de dénoncer le soutien d'Estrogi à Israël, en fait.
C'est dommage, parce que c'est des actions qui desservent les causes, au final. Parce que c'est des, ce genre d'acte, alors qu'à la base, moi personnellement, je suis plutôt pour le soutien de la dénonciation du génocide en Palestine. En fait, ceux qui ont cette même position que moi, ce genre d'action, ça nous dessert. Parce qu'en fait, ça permet juste à ceux d'en face de dire, vous voyez, vous vous comportez mal, quoi. Donc, voilà. Et puis, si c'était pas ça leur motivation...
C'est peut-être un complot.
Peut-être.
L'ami lui-même, le...
Ouais, c'est ça. Bon, ok, sujet suivant. Azad, il te reste un sujet, je crois.
Ouais. Alors, info scientifique. Microflora danica, un atlas microbien du territoire danois. Après la botanique, les microbes. Alice Le Breton évoque le travail titanesque mené par des chercheurs pour effectuer un recensement exhaustif des écosystèmes microbiens du Danemark. Voilà, en fait, ils font une sorte d'inventaire des microbes, des espèces de microbes, bactéries. Ouais.
Voilà. Qui nous avait amené un complément d'infos à ce sujet ? C'était toi, Clément, je crois, ce matin, en rapport ouais. au permafrost et à des nouvelles bactéries qui...
Mais en gros, ouais, c'est... Moi, ce que je vois en lien avec ça, c'est l'importance, en fait, de ce genre de travaux. C'est sur le fait que l'humanité, de par ses activités, s'expose de plus en plus à des bactéries, des virus... qui était jusque là, avec laquelle l'humanité était jusque-là pas en contact. Et ça donne des cas comme le Covid, où finalement, ben, du coup, on est dans une situation où l'humanité n'a pas de défense face à ces choses-là. Donc ça peut peut-être être pertinent de ce point de vue-là, puisqu'il faut s'attendre à de plus en plus d'expositions de ce genre.
Ouais, mais dans microbes, là, dans ce qui est pathologique, je suis d'accord avec toi, ce qui peut rendre malade, mais c'est de classer, de faire une liste comme ça des microbes, parce que des microbes, en fait, c'est des organismes microscopiques, donc c'est pas seulement le Covid et tout ça. Et en fait, de faire une liste, ça te permet de... ça travaille de fou, hein, de fourmi, hein, t'imagines lister tous les microbes, on en a déjà des millions sur nous, donc ça permet après de suivre, c'est-à-dire 5 ans après... Tu peux regarder s'il y a 40% des microbes qui ont diminué, tu te dis qu'il y a un problème quand même au niveau de l'écosystème.
Oui, mais surtout que c'est important qu'ils font ça dans les pays du Nord, parce qu'il y a des arrivées quand même nouvelles de microbes dues à la fonte des glaces qui s'étaient cristallisées en fait, après la glaciation. Donc des microbes qu'on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas de défense immunitaire pour ça.
Juste pour continuer là-dedans, Maxime, mais effectivement, c'est l'été dernier, en Russie, il y a eu des cas qui ressemblaient à une gastro-entérite, mais liés à une bactérie en fait, qui avait été retrouvée dans la glace.
Sympa.
Et comme tu le dis, Rachid, aussi, il y a le côté pour... expliquer un peu le fait que c'est un travail titanesque. Il y a aussi le fait qu'on parle d'organismes qui mutent très vite, en fait, qui évoluent très vite. Donc c'est un travail qui, a priori, sera continu, je suppose.
On confirme.
Ok, c'est la fin de l'actu service. On va passer à la pause musicale choisie par Clément. Tiens, justement, il s'agit de...
Candeur Cyclone avec leur morceau « Doux Pays ». C'est un petit groupe franco-belge qui a commencé à faire parler pas mal d'eux l'année passée.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre.
Vos idées mortifères vont faire couler la France. Vos politiques n'attisent que la guerre. Vous soutenez une police qui tue. Vous soudez un régime fasciste. Minez les esprits pour faire régner la peur dans votre monde idéal. L'amour se meurt, vous apprenez pas vos erreurs. Vous êtes antipathique, c'est énigmatique. Pourquoi vouloir que le monde se déchire? Tout ça pour garder vos petits privilèges. Vous fantasmez un danger artificiel dont les riches sont seuls bénéficiaires. Bolloré est la tête des médias. Les médias sont la tête de l'État. L'État protège ses oligarques et il serre les coudes au tribunal.
Quoi les valeurs qui font briller la France, Gérard Depardieu, son amour pour l'enfance, Charles Darmanin et son kink violent, ou l'obsession d'Eric pour la simulation. Ils sirotent tes souffrances pour faire gonfler les vôtres, rendre coupables les migrants de leurs propres erreurs. Quand je parle de mes agresseurs, on me demande leur couleur. C'est pas ton président qui défend les violards. Il veut construire un monde où les femmes sont des ventres, où tout pays sagement jusqu'à 67 ans. Redoré la nation par l'odeur de l'essence, travail, famille, patrie, les juifs font les vents. Faut qu'on résiste, faut qu'on existe en dehors du chemin tout tracé, parsemé de corps immolés et d'îles d'histoire trafiquées. Faut qu'on se décide, faut qu'on reste libre à être des pions dans leur jeu. Ils ont lancé une partie de risque, mais moi j'aimerais mourir vieux. Moi on des trous dans mes chaussures que de mon gouvernement. Oh mon beau pays, héberger quelqu'un peut te faire prendre une amende. Les ados sont refusés à l'entrée des lycées. Les migrants sont chassés, ils ont brûlé les camps. Je crois que le président a choisi son côté, qui fait passer des lois sans voter, qui protège les violeurs à la télé, interdit les manifs à la volée, qui soutient des génocides dans sa tour de Pise.
L'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Je suis ici, leur de la mort.
La priorité nationale
sur les rails.
radio des années 20, on parlait des juifs comme des rats. On leur inculpait tout le mal, tu as faim parce qu'ils sont là. Et puis 20 années plus tard, on n'était plus bienvenus au parc. On était contenus dans des camps, puis du karcher, on passe aux flammes. Ça te rappelle pas vaguement les faits divers, les bateaux qu'on coule en hiver, les 49 fois qui s'enchaînent, les chants de fascistes à l'antenne, la mort de Naël à Nanterre, et les génocides qu'on enterre. On enterre, on enterre, on enterre, on enterre, on recoupe comme on terre, on brandit le sang de ses veines et on ferme les frontières. On regrette ses ancêtres, leur grandeur, leurs éclairs. On vote Marine Le Pen parce qu'elle parle comme Hitler.
Faut qu'on résiste, faut qu'on existe en dehors du chemin tout tracé, parsemé de corps immolés et d'histoires d'histoire trafiquées. Faut qu'on se décide, faut qu'on reste libre, pas être des pions dans leur jeu. Ils ont lancé une partie de risque, moi j'aime.
Les entonnoirs, émission 860, la suite, c'est la parenthèse de Roger Lucien.
Jingle.
La parenthèse du jour, avec Roger Lucien.
Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la parenthèse. Ce jour, j'ai fait le choix de vous parler d'un événement marquant dans l'histoire du monde. Il s'agit de la première grève des travailleurs d'après les documents qui nous sont parvenus jusqu'à ce jour. Pour ce faire, je vais vous lire l'extrait d'un ouvrage qui a pour titre « La philosophie africaine de la période pharaonique ». -2780-330 avant notre ère, paru aux éditions L'Harmattan. L'auteur de ce livre est le professeur Théophile Obenga, qui est docteur d'État ès-lettres. Il est professeur d'histoire ancienne de l'Afrique et de langue égyptienne. C'est un éminent intellectuel. Le papyrus de la grève daté de l'an 29 de Ramsès III, -1198-1166 avant notre ère, montre ce qui pouvait se passer lorsque le système de redistribution des biens par l'État était perturbé pour quelque raison que ce soit. Le texte montre bien la colère et l'agitation de la communauté des travailleurs. Colère et agitation due au retard considérable ou au défaut de paiement des salaires. Colère des ouvriers, regroupement, marche en bloc, assaut en bonne et due forme, irruption dans le bâtiment ainsi occupé, paralysie et arrêt du travail. Tout cela au nom de la revendication justifiée. Il s'agit bien d'une grève des ouvriers de Deir el-Médina. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des travailleurs avaient fait valoir leurs revendications par la grève. Ce papyrus de la grève décrit ainsi la première grande grève de l'histoire de l'humanité. Donc ça date de l'époque pharaonique, hein, donc c'est ancien. Donc le mouvement de grève n'a pas commencé aujourd'hui, donc il remonte à quand même une certaine époque très ancienne.
Des réactions. Faut préciser que la redistribution consistait au moment du paiement des impôts de mettre dans des greniers pour après redonner dans le temps de fêtes et de disettes. Donc c'est pour ça que ça avait tout un autre système de collecte et de redistribution à l'époque.
En fait, c'est un peu le même fonctionnement que nos impôts, sauf que c'était directement de la nourriture qui était prélevée et qui était mise de côté, ça. Plutôt que de l'argent, quoi.
On le voit dans Astérix et Obélix. Ils font grève, ils demandent 50% des coups de fouet en moins. Je sais pas s'ils ont fait exprès ou s'ils sont hyper renseignés comme toi, Roger Lucien, ou si c'était juste une critique de la société française.
Non, mais je pense que c'est documenté parce que le scientifique, l'historien dont tu nous parles, Roger Lucien, il a écrit ça il y a plus de 50 ans déjà, je crois.
Le livre est sorti en 1990.
Ok.
Donc ça fait déjà un moment, hein, ouais. Ça fait plus de 30 ans, hein, plus de 36 ans je crois, 36 ans si je
36 ans. Donc
je pense que c'était arrivé jusqu'aux oreilles d'Alain Chabat au moment où il a réalisé...
Aussi que, de toute façon, du côté de Uderzo et Goscinny, bon, il y a beaucoup de vannes, mais il y a aussi des fois des petits rêves justement à l'histoire, quoi.
Et je pense que ce livre est le fruit d'un long travail de recherche, donc il ne s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Il fait plus de 500 pages.
Merci Roger Lucien. On va maintenant redonner la parole à Clément qui va nous emmener dans les étoiles.
Moi, je vais vous parler de l'une de mes photos préférées de l'histoire de l'humanité, qui est peut-être un peu difficile à comprendre sans explication. On est à la radio, donc je ne peux pas vous la montrer, mais vous allez voir, au final, c'est assez facile à se représenter. Le 14 février 90, alors que la sonde Voyageur 1 se trouve à 6 milliards de kilomètres de la Terre, plus de 40 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire plus loin que la planète Neptune, elle nous envoie par signal radio une soixantaine d'images qu'elle a captées. Trois de ces photos, prises avec des filtres de couleurs différents pour capter l'intégralité du spectre, seront ensuite combinées pour produire l'image dont je veux vous parler. Sur un fond noir, bah oui, c'est l'espace, on distingue quelques raies de lumière que notre bon vieux soleil a envoyé se perdre dans l'infini. La couleur est reconstruite et l'image est granuleuse. On est en 90 et le réseau n'est pas top du côté de Neptune. Mais parmi les gros pixels qui composent un de ces rayons, il y en a un qui est bleu. Et c'est pas une erreur. C'est tellement pas une erreur que ce point va donner son nom à cette photo. Pale Blue Dot, un point bleu pâle en anglais. Et vous avez sûrement compris de quoi il retourne, mais j'ai la chance que cette photo que j'adore soit associée à un texte écrit dans un livre du même nom qu'elle, par le célèbre astronome Carl Sagan. Texte qui me semble nécessaire de rappeler régulièrement à l'humanité, et dont je vais donc vous lire une traduction. De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer, c'est nous. Sur ce point, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous ayez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie. La somme de toutes nos joies et de toutes nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques toutes pleines de certitudes. Tous les chasseurs et tous les cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, toutes les mères et tous les pères, les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et tous les pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Pensez aux rivières de sang versées par tous ces généraux et ces empereurs pour que, dans la gloire et le triomphe, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Pensez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'un recoin de ce pixel, aux habitants à peine distinguables d'un autre recoin. Comme ils peinent à se comprendre, comme ils sont prompts à se tuer les uns les autres, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous ayons quelque positions privilégiées dans l'univers sont questionnées par ce point de lumière pâle. Notre planète est une poussière isolée, enveloppée par des ténèbres cosmiques infinies. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe, qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui, s'installer, pas encore. Que cela vous plaise ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et forme le tempérament. Peut-être n'y a-t-il pas de meilleure démonstration de la folie des vanités humaines que cette image distante de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité à cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et à préserver et chérir ce point bleu pâle, la seule maison que nous n'ayons jamais connue. C'était Pale Blue Dot par Carl Sagan.
Merci, c'était beau.
Merci.
Nicolas, tu veux compléter cette
Oui. Le Soleil est à 149,6 millions de kilomètres de la Terre et la lumière du Soleil traverse la Terre en 8 minutes 19.
Amélie.
Bah, moi, je trouve que c'est un très beau texte et qui est encore tout à fait d'actualité. Voilà.
C'est un texte qui montre bien quelque chose dont je suis convaincu, qui est que la science, c'est très poétique, en fait.
C'est bien résumé. Musique.
Je
choisi cette fois par Maxime pour ouvrir ta chronique.
Effectivement, une musique introductive de mon album préféré de Scorpions, It's Trance, sorti en 1975 et produit par Dieter Dierks. Living and Dying.
C'était Scorpions. Maxime, la parole est à toi.
Effectivement, Scorpions, du coup, un groupe allemand de hard rock venu de Hanovre, mais qui a commencé, comme vous l'avez entendu, avec du rock psychédélique. Il a commencé à se créer depuis 1965, a commencé à atteindre la notoriété en 1972 avec Lonesome Crow, mais a vraiment atteint son apogée en 1980-84 avec des exemples comme Rock You Like a Hurricane, Big City Nights. Mais son album le plus vendu était bien en 1984 avec Still Loving You, 1,7 million d'exemplaires vendus, ce qui a même provoqué un baby boom. Les labels de Scorpion sont RCA Victor, Mercury, Harvest, East West, Sony Music. Son site officiel www.thescorpions.com. La composition du groupe a été plurielle et très changeante, mais pour en citer quelques-uns, Klaus Mary, Rudolf Scheiner, Matthias Jabs, Powell McKiboda et Mickey D. En tout, Scorpion, en 2010, c'est 100 millions d'albums vendus et plus de 5000 concerts. Disque d'or et de platine aux États-Unis, en Allemagne et en France, il atteint un statut transcontinental. Il est décrit comme des riffs hargneux aux ballades charriant la transition d'une ère. Wind of Change, la chanson emblématique du chute du mur de Berlin. Scorpion est à la fois percutant et caressant, des morceaux efficaces et disciplinés, aux riffs nerveux, mais pas agressifs, entrelacés de ballades. Pour citer quelques citations, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Take me to the magic of the moment on a glory night. To win back your love again, il faut du temps pour reconquérir ton amour. It starts to show desire incoming. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find the way out of the dark. Et pour finir, une citation de l'album dont est tirée la chanson que vous venez d'entendre. I'm in love with her and I feel fine.
For sure.
For sure.
For sure.
Pour citer un peu un résumé de ma pensée sur ce groupe, je dirais que Scorpion a bercé mon enfance et m'a suivi dans ma vie d'adulte. Ses lyrics sont percutants, c'est une balade à l'amour sauvage et passionné. Ce groupe pique et peint, c'est l'enveloppe de douceur, une beauté sauvage et un voyage psychédélique. Une recherche de beauté et de sensualité, un voyage intemporel, une communion des âmes qui recherche toujours plus loin, un hymne à l'amour et à la paix qui réunit les nations et les cœurs. Mes sources sont Le Monde, Spirit of Rock, Nostalgie, Spectable, Universal Music France, Deutschland, Metallurgy, Getty Images, Rock Song, Gérard Drouot Productions, Scorpions, Wikipédia, YouTube et pour finir, des avis personnels. Merci.
Qui n'a jamais dansé de slow sur Still Loving You?
C'est pas pour ça que je veux réagir, justement.
Vas-y, prends la parole, Amélie. Ouais.
J'ai déjà dansé sur Still Loving You. Et une petite fun fact sur Scorpion. En gros, ils ont la pochette la plus controversée de l'histoire du rock avec l'album Virgin Killer sorti en 1976.
Oui, oui, oui.
Qui représente une jeune fille nue avec un effet de verre brisé qui était censé représenter un peu la mort de l'innocence et qui est toujours actuellement censurée. Voilà.
Nicolas, tu voulais réagir, ouais.
Je suis étonné que Hard Rock était en 1965. Moi, j'aurais dit plus vers le milieu des années 70.
Ouais, mais tu sais, si on remonte aux origines du Hard Rock, je pense à des groupes comme Black Sabbath, ou voire même The Who, qui chantaient Going Home by Helicopter à Woodstock en 69. Donc, fin des années 60, c'était le début du Hard Rock quand même. Ouais.
Et si vous croisez un scorpion, évitez de vous faire piquer.
Merci pour le conseil.
À part si comme Cupidon, il pique votre cœur.
Dédicace au scorpion, hein, le signe astrologique.
On va changer de discipline, on va passer dans le cinéma avec Raphaël. Si tu veux bien prendre un micro, Raphaël.
Bonjour.
Tu vas nous parler d'un genre cinématographique que nous, on connaît en France, mais qui gagne à être connu dans le monde.
Alors aujourd'hui, je voulais faire une légère chronique sur le mouvement cinématographique du New French Extremism. Le New French Extremism est un sous-genre nommé par le journaliste américain James Quandt. C'est un type de cinéma incluant des films qui ont pour but de choquer et être transgressifs. Les thématiques abordent les violences sexuelles, psychologiques, des images graphiques ainsi que tout ce qui peut mettre mal à l'aise. Cela